C'est moi, c'est Lola.
Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Richard Brautigan, 1935-1984. Écrivain, américain, politique, gauche, pas de religion connue. Né pauvre, ayant gagné de l'argent avec ses livres avant de se ruiner, hétérosexuel. Œuvre, Un privé à Babylone, roman, 1977. Titre original, Dreaming in Babylon, traduction en français, par Marc Chentier en 1981. Personnage, Sicard. C'est un écrivain hippie, enfin un écrivain qui s'est trouvé à être hippie. Un écrivain est un écrivain qui a des caractéristiques latérales, lesquelles contribuent à le définir sans être prééminente. Et voilà pourquoi, au début de chacun de ces personnages en personne, j'indique la nationalité, les opinions politiques, la religion, la sexualité des créateurs du personnage dont je vais m'entretenir. C'est une indication. On doit en tenir compte, pas plus, pas moins. D'être chrétien n'a jamais empêché de créer des personnages agnostiques, d'être lesbienne, des personnages d'hétérosexuels. Je ne crois pas que Brautigan ait jamais revendiqué le terme « hippie ». En tout cas, les Américains l'ont choisi, lui, pour symbole littéraire de ce mouvement. Dans la Californie des années 60, à la suite du triomphe de son deuxième livre, « La pêche à la truite en Amérique », il est devenu une célébrité. L'intéressant est que, même du temps de son triomphe, on ne l'a pas pris trop au sérieux. Les triomphes font taire les ressentiments, au moins pendant un temps, mais Brautigan était trop désinvolte et les critiques se sont vengées en le traitant par-dessous la jambe, puisqu'aussi bien, il les laissait faire. À la fin de sa vie, il n'avait plus de succès qu'au Japon, pareil à ces chanteuses de variété occidentale dont nous n'avons jamais entendu parler à Paris et dont on nous dit qu'à Tokyo, elles sont quelque chose comme Edith Piaf. Encore plus intéressant, les Beats ont pris Brautigan de haut. Ce n'étaient pas des gentils, comme on le constate à simplement se rappeler William Burroughs, ce dégustateur de sorbet à la cruauté. Quant à Allen Ginsberg, avec sa monstruosité à la Walt Whitman dans le désir de célébrité, il surnommait Brautigan « Bunt Horn », donnant ainsi à une personne le nom d'un personnage. Ce Bunt Horn est le poète charmeur et putassier d'une opérette de Gilbert et Sullivan. Voilà, on a généralement pensé que, à la façon de Françoise Sagan, Brautigan était un écrivain d'un talent fluet et d'un grand art de la drague du public. Cela me paraît injuste et faux. Quelles que soient ses paresses, c'est un écrivain qui a son monde, un monde d'estampes japonaises où des poissons aussi gros que des hommes circulent parmi eux. C'est aussi un écrivain qui fait rire, chose excessivement rare. Non qu'il le cherche, d'ailleurs il n'est pas un humoriste qui calculerait ses coups, mais il a une imagination si fraîche qu'elle nous fait rire comme des enfants. Brautigan réussit ça, et réussit aussi, souvent, une poésie froide, un peu dominatrice, pas du tout sympa comme il peut en avoir l'air. Il n'est décidément pas étonnant qu'il ait plu aux Japonais. Un de ses personnages les plus marquants est le détective raté d'Un privé à Babylone qui rêve au lieu d'agir. Pour parler de Sicard, je reçois Nicolas Richard, traducteur de Brautigan et de nombreux autres auteurs anglais ou américains, et qui vient de publier un roman, La Dissipation, chez Inculte. Nicolas Richard, à quoi ressemble Sicard si tant est que Brautigan le décrive?
Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de descriptions physiques de Sicard. On sait qu'il est dans la dèche, on sait qu'il est au plus bas, puisque dès le début du roman, il nous dit qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, et lui, au point où il en est, il ne peut que remonter. Donc on a plutôt un portrait...
moral que physique.
Voilà, c'est ça.
Et que veut dire... son nom, quel jeu de mots s'y cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je le prononce depuis le début, ça s'écrit C.C.A.R.D. Sicard.
Oui, on ne connaîtrait pas son prénom. Moi, j'émettrai l'hypothèse plus tard que C, c'est peut-être le début de Coué comme méthode Coué, puisqu'il n'arrête pas de se convaincre que ça va commencer à aller mieux. Card, donc c'est la carte en anglais, et on est dans un roman policier qui se passe en 1942. Et c'est difficile de pas avoir une référence ou un clin d'œil assez évident à Sam Spade. Spade voulant dire pique dans le vocabulaire du jeu de cartes, qui est un des héros d'Achalamet.
Mais le si voudrait dire quoi? Est-ce que ça serait... Est-ce que les cartes de crédit n'existaient pas, donc ça pouvait pas être crédit de carte? Est-ce que ça serait si comme carton, un personnage de carton? Brantigan n'a jamais dit ça.
Hein. Pas que je sache. Pourquoi ce ne serait pas éventuellement comme Chandler, l'autre auteur de romans policiers exemplaires, au même titre que Hammett.
En fait, il a été très malin. Il a fait ça pour que précisément on passe 5 minutes à se poser la question et peut-être qu'on continue à parler de lui. Quelles sont les aventures, si on peut donner ce nom au déplorable ruisselet de ratage qui arrive à Sicard dans le livre?
Quand le livre commence...
Nous sommes quand?
Alors, on est en 1942, on est à San Francisco. Et il a enfin une affaire. Il a rendez-vous à 18h en fin de journée, avec quel client, ça il ne le sait pas encore, et donc sa priorité pour commencer cette journée, c'est de trouver des balles pour son arme. Voilà comment ça démarre. Alors, il va commencer par faire le tour de ceux qu'il connaît plus ou moins pour essayer de récupérer des balles, et là on va comprendre petit à petit qu'il est tellement dans la dèche, dans la débine, que tous ses amis... On en marre de le voir arriver, toujours parce qu'il leur demande de l'argent. Mais il va finir quand même par obtenir des balles, non pas de l'ancien flic Rink, mais de celui qu'on surnomme Pilon, qui tient une morgue.
Et alors, qui est cette étrange blonde qui boit de la bière qu'il finit par rencontrer?
Eh bien, c'est justement la cliente. On est dans le registre du mystery story, hein, du roman à énigmes, et finalement le gag, puisque c'est un livre que je trouve absolument poilant.
Ah oui.
Le gag, c'est que le seul mystère peut-être, ou disons qu'il y en a deux. Le premier mystère, c'est comment fait cette mystérieuse blonde femme fatale pour boire tant de bière et ne jamais aller aux toilettes, ne jamais faire pipi, d'une part. Et peut-être l'autre mystère qu'il y a dans ce roman à énigmes, c'est comment s'est-il débrouillé pour se faire un trou dans chaque fesse à la guerre d'Espagne en 1936.
Chose qu'on ne saura jamais.
S'il l'explique à un moment donné.
Ah oui? Alors dites-moi, j'ai oublié ça.
Eh bien, c'est en faisant caca. Voilà. Et alors, c'est assez difficile à imaginer, mais c'est en tout cas l'explication qu'il donne.
Il y a dans Brantigan un côté... rabelaisien chétif, c'est-à-dire il a des aspects rabelaisiens, mais comme c'est un écrivain un peu retenu qui écrit par bref paragraphe, il y a ce mélange assez abusant de provocation pipi-caca, nous l'avons là, et aussi de grande délicatesse de touche.
Alors ça, j'avais jamais pensé à un rapprochement avec Rabelais, je suis pas persuadé.
Non.
En tout cas, je pense que c'est dans ses poèmes, mais surtout peut-être dans ses romans et dans ses nouvelles, un auteur beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambitieux qu'il en a l'air. Et effectivement, vous le disiez en début d'émission, Ginsberg en particulier l'a pris de haut à San Francisco, sans doute parce qu'en fait c'est quelqu'un de très amusant, qui a beaucoup d'humour. Contrairement au beat, en général. Et quand, en 1957-58, sortent Howl de Ginsberg et On the Road de Kerouac, et qui connaissent un succès retentissant, lui, il est encore, Brantigan est encore en train de lire ses pauvres poèmes dans des petits bars. Et, il affûte ses armes, en un sens.
Finissons les aventures de Sicard. Donc, il est contacté par cette blonde qui ne pisse jamais, et elle lui donne une mission, n'est-ce pas?
Voilà, alors sa mission, ça va être tout simplement d'aller dans la morgue de son copain, le hasard fait bien les choses, le fameux Pilon, et de dérober un cadavre. Et donc c'est une mission dont il s'acquitte finalement avec un certain brio, parce qu'il a touché une avance dans la grande tradition du détective privé. Donc là finalement on reste assez proche des codes hein, du roman énigme. Donc il va réussir à subtiliser ce cadavre, le problème c'est qu'après ça va un petit peu se compliquer.
Et à la fin, donc, tout se complique et le roman se finit sans résolution de l'énigme, disons-le, puisqu'on ne sait pas bien pourquoi cette femme a été assassinée. Il faut dire que la blonde qui ne pisse pas a envoyé deux types chercher d'autre part, aller à la recherche du cadavre, on ne sait pas pourquoi. Et à la fin, Sicard retrouve le cadavre de la fille et le met...
dans son frigo.
Et ça se finit là.
Voilà. Donc finalement, lui qui espérait à un moment donné capitaliser sur ce cadavre qu'il possédait et faire monter les enchères, se retrouve pratiquement au point de départ, avec en plus un cadavre dans son frigo.
Alors, il y a une chose que nous n'avons pas dite. Alors, il y a beaucoup de détails de vie pratique où on apprend qu'il a son loyer en retard, qu'il doit de l'argent à tout le monde, qu'il doit téléphoner à sa mère, etc. etc. Mais la chose la plus frappante de Sicard, c'est que, comme le titre l'indique, il rêve de Babylone.
Voilà. Alors, le titre français est peut-être presque plus judicieux que le titre anglais. On le doit à Marc Chentier, l'excellent traducteur de ce roman. Et en français, c'est « Un privé à Babylone ». Et effectivement, le titre français indique bien que il y a la vie quotidienne où ce Sécard essaye d'être détective privé. Et parallèlement, la vie vraiment excitante, la vie qu'il rêve, qui se passe à Babylone. Et alors là, c'est absolument merveilleux.
Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il s'interrompt dans ses aventures parce qu'il rêve.
Voilà, alors c'est là encore, c'est peut-être plus subtil que ça en a l'air. C'est-à-dire que l'imagination qui l'emmène à Babylone a plusieurs statuts. C'est Babylone, c'est un endroit où il se sent bien. C'est un endroit où, étonnamment, il est un détective privé à succès ou bien un général à succès. Il a plusieurs fonctions. À chaque fois, surtout, il explique bien que c'est là qu'habite ou c'est là qu'évolue la femme qu'il aime, la fameuse Nana Dirat. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il ne se contente pas d'aller dans cet endroit refuge. C'est que cet endroit refuge l'inspire pour composer des feuilletons, une sorte de feuilleton qui se déroule pendant tout le livre. Et il hésite d'ailleurs à la forme à donner à ce feuilleton. Il se dit que ça pourrait être très bien aussi bien en bande dessinée qu'en film, qu'en livre. Et donc finalement, derrière cette intrigue de détective privé, on a en plus une sorte de roman qui se construit sous nos yeux, puisque le lecteur est invité à participer à la recherche du personnage principal, qui finira par s'appeler Smith Smith, et en particulier assister presque en direct aux aventures du héros qui seront intitulées Smith Smith contre les ombres robots.
Au fond, est-ce que Sécard n'est pas un personnage de privé très classique? Puisqu'au fond, dès le départ, le personnage du détective privé, et comme vous le savez mieux que moi, le premier détective privé de la littérature a été inventé par Émile Gaboriau sous les espèces de l'inspecteur de la sûreté Tiroclair dans l'affaire Le Rouge en 1866. Dès le début, c'est un personnage qui a des doutes.
Paradoxalement, on a beau avoir sous les yeux un roman extrêmement amusant, on est finalement en présence d'un roman policier avec une arme du crime. Alors en l'occurrence, c'est un coupe-papier. Donc c'est pas mal un coupe-papier pour un détective dont le nom pourrait éventuellement évoquer cardboard, le carton. On a une victime, une femme très belle qui se retrouve à la morgue. Le mobile pour l'instant nous échappe, mais en tout cas il va falloir subtiliser ce cadavre. Il y a plusieurs personnes sur le coup. Le commanditaire est finalement peut-être à des rapports en tout cas avec la personne qui a été tuée. Bref, on est finalement en présence de tous les indices d'un véritable roman policier.
Alors, dans la plupart de ses autres romans, Brautigan parle beaucoup de la nature. Et celui-ci est peut-être son roman le plus urbain. D'autre part, vous le disiez, il s'agit de Babylone. Il rêve à cette espèce de ville. Babylone, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Normalement, Babylone, c'est la ville de la prostituée, c'est la ville. Donc, c'est aussi les rapports assez ambigus des Américains avec les villes qui les attirent, qui les détestent. Et c'est aussi le rapport du puritanisme américain avec l'urbanité, non?
Dans l'œuvre de Brautigan, on distingue traditionnellement trois périodes. La première, avec les premiers romans, en gros, des années 60, les trois romans des années 60, ce serait une thématique plutôt pastorale de l'Amérique, où effectivement, le général sudiste, ou la pêche à la truite, ou même sucre de pastèque, on est effectivement en pleine nature. La deuxième décennie, la deuxième période, donc qui correspond aux années 70, Brautigan s'essaye plus à jouer sur les genres. Donc il va jongler avec la série B, le roman sentimental, le roman gothique, le roman japonais. Alors là, du coup, les considérations de nature s'éloignent un peu. Et peut-être qu'il y revient dans sa troisième période, si on schématise un tout petit peu, qui serait le début de la décennie 80, avec Mémoire sauvée du vent et puis ses derniers poèmes. Donc voilà, je suis pas sûr que il soit emblématique d'un rapport des auteurs américains à la nature.
Alors, ce qu'il y a de frappant dans le personnage de Sicard et dans Un privé à Babylone de manière plus générale, c'est que c'est aussi un roman où Brautigan, qui dans beaucoup de ses romans s'intéresse à telle ou telle mythologie américaine, la frontière, les armes, etc. Là, on l'a dit, c'est le détective. Il s'intéresse à un genre qu'il subvertit de l'intérieur. Parce qu'en fait, tout le roman est aussi une parodie ou un pastiche, vous me direz ce que vous en pensez, du roman policier et qu'il cherche à faire imploser.
Moi, il me semble que finalement, il jongle avec les codes.
Ah oui, vous avez raison. Parce que finalement, quand on lit Chandler, les romans de Chandler sont aussi, contiennent une part de sarcasme sur le genre.
Oui, tout à fait. Chandler, je crois qu'il n'écrit pas avant ses 40 ans passés. Et il est bien expliqué qu'il commence par étudier ce genre. Et donc, pour pas que ce soit un genre mort, il faut, pour qu'il renaisse à chaque fois, il faut qu'il y ait une part de subversion systématiquement. Je crois que c'est inhérent dès le début au genre, en fait.
Alors, il y a une chose intéressante dans Sicard, c'est son langage. C'est-à-dire que non seulement il rate tout dans sa vie à San Francisco, puisqu'à Babylone, il réussit tout, c'est la façon qu'il a de parler. Et là, je crois qu'il y a une intention très, très ironique de la part de Brautigan avec cette espèce de manière qu'il a de suremployer les propositions temporelles 3 ans plus tard, le matin suivant, mélanger à une espèce de vocabulaire de cours de lycée. Alors, je lui dis que, il me dit que...
Oui, mais il y a énormément de trouvailles, parce que cette imagination qui parfois, systématiquement même, l'emmène vers Babylone, c'est aussi prétexte à plein d'astuces de dialogue, de vocabulaire, ou de trouvailles tout simplement. Au début du livre, donc il n'arrive pas à payer son loyer, il a plusieurs mois d'arriéré, et il trouve une astuce pour apaiser sa propriétaire, c'est lui dire que quelqu'un de son oncle a trouvé du pétrole, du pétrole dans le Rhode Island. Et là, il crie, c'est formidable, je vais être tellement riche que d'ailleurs je pourrais vous épouser et nous aurons plein de petits appartements ensemble. et en relisant ça, en arrivant, je me dis, mais Rhode Island, si on a un petit peu en tête une carte des États-Unis, donc nous sommes sur la côte Est, et c'est quoi la capitale du Rhode Island? C'est Providence. Et finalement, c'est assez providentiel, effectivement, d'avoir trouvé comme ça, par hasard, du pétrole pour apaiser la propriétaire. De même que autre trouvaille, pour justifier que l'argent tant attendu n'arrive pas tout de suite, il fait jaillir un brouillard de cactus. Alors là, le brouillard de cactus fait que le fourgon blindé avec l'argent est coincé quelque part à Phoenix, Arizona. Donc voilà, il y a constamment des astuces de ce type. À un moment donné, il doit passer un coup de fil d'une cabine dans un café. Et puis il y a une femme qui ne veut pas raccrocher manifestement. Donc il la trouve, il la décrète amoureuse de son téléphone. Et la phrase d'après, sans aucun commentaire... il écrit quelque chose du type « Je vous déclare, téléphone et femme. » Point. Donc là, il y a cet art du raccourci qui est bien au-delà du genre policier, qui est de la pure créativité.
Nous allons maintenant entendre l'extrait d'un film américain de la même époque et de même goût hippie qu'un privé à Babylone, « Faut trouver le joint », un anglais « Up in Smoke » par Lou Adler en 1978. On y fume beaucoup de pétards.
« Hijo de la chinga ! Ah bah ça, c'est un joint, mec ! » Et dis donc, ça a l'air d'une fusée porteuse, mec. Ouais, c'est le lancement.
Hey, fais gaffe avec cette merde.
Ouais, si forte que ça, cette merde, elle va me défoncer, alors.
Viens de mettre ta ceinture parce que tu pourrais être éjecté, mec.
Ouais, je fume depuis que je suis au monde. Moi, je t'assure, je peux tout fumer. C'est-à-dire, je fume le Michelacan, mec, l'Acapulco Gold, mec. J'ai même fumé du hache dans un chignon.
Dans un chignon?
Oui, tu sais, ce cône en terre cuite, quoi. Tu connais pas?
Ah, dans un chignon.
Ah ouais, bah ça m'a rien fait. Je pourrais fumer tout ce joint, mec, j'arriverais quand même à marcher. Ça pose pas de problème à être en fumée.
Eh mec, c'est à moi, maintenant.
Je ne sens rien du...
Ça t'empoigne les burnes, hein?
Eh mec...
Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans cette merde?
Marijuana en majorité.
Ah bon?
Mais il y a aussi un peu de labrador dedans.
Ah bon? Qu'est-ce que c'est le labrador?
C'est de la crotte de chien.
Quoi?
Parce que mon chien, un jour, il a bouffé ma réserve. Ouais. C'était sur la table et ce con, il l'a bouffé entièrement. Les...
Ah, c'est vrai?
Alors j'étais obligé de lui filer le temps avec une petite casserole là, pendant 3 jours avant de tout récupérer.
Nicolas Richard, Sicard est beaucoup moins le personnage d'un créateur qui fumait beaucoup de pétards qu'on ne le dit. Simplement, comme vous le disiez à la fin de la première partie, c'est un écrivain qui a une imagination au fond japonaise. Le brouillard de cactus, c'est ça. C'est comme des estampes japonaises où tout d'un coup, les personnages et le décor ont une valeur égale. Et ça n'est pas une imagination d'un rationaliste occidental.
C'est certain que Brautigan a été influencé par beaucoup de gens. Hein, mais ce qui est frappant dans la façon dont l'imagination se développe dans Un privé à Babylone, c'est que même dans l'imagination, on a le sentiment qu'il est coincé par une sorte, par un cadre, par un carcan de série B. C'est-à-dire que même quand il imagine réussir à Babylone, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir monter une agence de détective et son histoire d'amour, ce sera avec sa secrétaire. Et finalement, ça, c'est un des motifs qui n'apparaît peut-être pas immédiatement, mais à chaque fois qu'il rêve, il retombe sur cette espèce de motif, de pattern qui le bloque aussi constamment, ce personnage.
Dans une interview au magazine littéraire en 1983, Brautigan a cette phrase « J'ai une grande dette envers Rimbaud, Laforgue, Breton et Michaud ». Et celui qui me frappe dans cette énumération, c'est Laforgue, le Jules Laforgue des moralités légendaires, où lui-même réinterprète de manière rêveuse et moqueuse des personnages existants comme Hamlet, par exemple.
Moi, dans cette liste, je retiens aussi Rimbaud, quand même, parce que on a l'impression que la vraie vie est absente, comme l'écrit Rimbaud dans Les Délires, La Vierge folle. Et il y a ce sentiment, il y a non pas une opposition un peu facile qu'on pourrait faire entre le rêve et la réalité, mais entre le paradis et l'enfer. Le paradis, c'est Babylone, et l'enfer, c'est son quotidien. Et voilà, moi j'ai eu le sentiment, par moments, j'ai pensé aussi à Rimbaud, même si lui cite volontiers Baudelaire dans ses poèmes. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de références. Et ça, il est tellement drôle en fait, il y a tellement de gags que vous parliez de la critique en début d'émission, et ça c'est effectivement une chose que la critique n'a pas vue. C'est-à-dire que le paradoxe du phénomène Richard Brautigan, qui commence à écrire de tout temps probablement, mais enfin qui commence à lire ses premiers poèmes dans les années 50 et qui suicide en 84, c'est que il a un tel succès dans les années 60, qui est un phénomène de pop star, littéralement. Et avec le retour de bâton inévitable, il tombe dans une sorte d'oubli, ou en tout cas le public finit par le bouder un petit peu, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est pas le cas, comme vous le disiez, ni au Japon ni en Europe. Mais finalement, de son vivant en tout cas, il n'y a pas eu de critique sérieuse, véritablement, ou alors très peu, à part peut-être Pétillon et Chénetier, justement, qui l'ont fait assez tôt, pour dire à quel point c'est ambitieux, à quel point ce personnage de Pilon, c'est difficile de ne pas penser tout de même à Moby Dick, etc. Finalement,
bien sûr, c'est un romancier cultivé, qui est plein de références, mais probablement qui avait le malheur d'être trop poli et trop comiquement poli, c'est-à-dire qu'il ne prenait aucune posture de sérieux.
Voilà, et puis il n'a pas fait l'objet d'une critique universitaire un petit peu substantielle. Il refusait, contrairement à beaucoup d'auteurs, on parlait de William Burroughs tout à l'heure, il a jamais fait des cycles de conférences dans les universités. On peut supposer qu'il préférait vivre ou bien écrire et ne pas commenter son œuvre.
Alors, pour en revenir au personnage de Sicard, il y a une chose qui me paraît frappante, c'est que il enquête, et en fait, il a l'air d'enquêter sur ce cadavre, enfin, qu'il recherche, mais au fond, il enquête sur lui-même. Et c'est autour de ses rêves qu'il enquête. Et au fond, c'est un personnage, c'est un faux roman d'aventure, c'est un faux roman extérieur, et c'est un vrai roman d'introspection.
C'est sûr que c'est un vrai roman d'introspection, mais il y a un moment donné sur le statut du rêve, là, il y a un passage qui me revient à l'esprit. Il est, avant de rencontrer sa cliente, à 18h, ce jour-là, il se demande qui ça peut être, qui l'a convoqué, comment on a entendu parler de lui. Et il se met à rêver. Donc l'imagination, là, il va indirectement à Babylone parce qu'il se dit l'idéal, ce serait quand même que ce soit une femme magnifique. Et alors, du coup, comme ça, elle pourrait tomber follement amoureuse de moi. Et alors, je pourrais occuper la moitié de mon temps à faire l'amour avec elle et l'autre moitié de mon temps à rêver à Babylone. Et là, on a une sorte de complexité dans la, c'est pas une fuite, mais enfin dans l'élévation vers le rêve, qui est assez intéressante.
Vous parliez de son influence à l'étranger qui a été, elle, durable. Je parle de Brautigan, évidemment. Son influence en France est nette, au Japon. Est-ce qu'en France, vous diriez qu'il a pu influencer des gens comme Pénac, par exemple, dans ses personnages de policiers? Est-ce que vous savez si quelqu'un comme Jérôme Tcharin, qui a aimé aussi subvertir le roman policier, s'était intéressé à Brautigan? Est-ce qu'il a laissé une succession comme ça, ce personnage de Sicard et Brautigan de manière plus générale?
Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Et vous? Il vous a influencé comment?
Moi, il m'a beaucoup influencé, en particulier Un privé à Babylone, qui, à un moment donné, on était une bande de copains, et c'était vraiment un roman culte, et on connaissait des passages entiers par cœur, et y compris, d'ailleurs, la préface de Marc Chentier. J'avais été assez impressionné par le retournement de crêpes à la Chandler et des choses comme ça, un privé de tout et quelques jeux de mots qui figurent dans la préface.
Chentier, pardon de vous interrompre, a écrit un livre aussi sur Brautigan qui s'appelle Brautigan sauvé du vent.
Pour moi, c'est un roman important parce qu'il se situe dans une tradition littéraire, dans la tradition du policier. Et surtout parce qu'il est pratiquement à chaque ligne extrêmement marrant.
Est-ce que vous ne diriez pas que ce créateur, puisque c'est un romancier, Kay Brautigan, n'est pas aussi un grand destructeur? Vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il s'est attaqué de manière très très sarcastique à des stéréotypes de romans comme le héros militaire dans Le Général Sudiste de Bixure, le roman sentimental dans L'Avortement, le roman gothique dans Le Monstre des Hochlein, et dans le personnage de Sicard dans Un privé à Babylone. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, le personnage du roman que écrit Sicard à Babylone finit par s'appeler Smith, c'est-à-dire Dupont. Et on a l'impression qu'il y a une dilution totale du personnage à la fin.
Oui, c'est vrai. Alors, le lecteur est effectivement invité déjà à trouver le nom du personnage principal. Mais quand on regarde de plus près le titre qu'il donne à ses propres aventures d'enquêteur à Babylone, c'est les ombres robots. Et les ombres, là, c'est un clin d'œil discret mais évident à The Shadow, hein, qui était un des personnages de polar absolument majeur, dans la grande tradition du Black Mask, une fois de plus. Donc, là où Brautigan, à mon avis, va durer et est extrêmement important, c'est que effectivement, il démonte les genres tout faits, il en joue, mais avec un terreau littéraire très solide. Il sait, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que des fois on rigole trop, il sait ce qu'il fait, et il fait quelque chose d'extrêmement subtil, en fait.
Et d'ailleurs, d'une certaine façon, quand on subvertit, on rend hommage. Parce que dans Un privé à Babylone, il a l'air de subvertir le genre du roman policier, mais il est en plein dedans.
Oui, il le nourrit, absolument. Il permet que le genre continue d'évoluer.
Nicolas Richard, que vous a appris le personnage de Sicard?
Je ne sais pas ce qu'il m'a appris.
Vous êtes comme lui, vous êtes...
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Je sais pas, peut-être que dans la pire débine, y a moyen de rigoler.
Comme si j'étais assis. C'était Personnage en personne, le 33e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage d'Arnold, créé par Harvey Fierstein dans le film Torch Song Trilogy.
De l'autre côté de ma vie, le paradis. C'était un grand jeudi. Tous les jours paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral. Prise de son Renaud Fluzin. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers?